podcast de Radio Vatican.
Un 14 juillet, sous le signe de l'amitié franco-américaine, Donald Trump était l'invité d'honneur du président Emmanuel Macron ce vendredi lors du traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale française. Ce défilé coïncide en effet avec le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale aux côtés des forces de l'Entente. En avril 1917, année particulièrement difficile pour les belligérants, le Congrès américain vote la reconnaissance de l'état de guerre entre les États-Unis et l'Allemagne, rompant ainsi avec une politique étrangère qui pendant un siècle se voulait résolument isolationniste. L'arrivée des premiers soldats américains à Saint-Nazaire, les fameux Samis en juin 1917, redonne espoir à la France et à l'Angleterre, exsangue, mais l'aide militaire des États-Unis ne pèsera vraiment sur le conflit qu'au printemps 1918. Retour sur les raisons de cette intervention déterminante avec Hélène Arter, historienne des États-Unis et du Canada, professeure à l'université Rennes 2. Elle est l'auteur des États-Unis dans la Grande Guerre aux éditions Talendier.
Alors les raisons sont multiples, mais l'élément déclencheur, c'est la dégradation de la situation dans l'océan Atlantique et en particulier l'annonce qui est faite par le gouvernement impérial allemand d'une guerre sous-marine à outrance qui attaquerait tous les bateaux qui ravitaillent les îles britanniques. Et donc les Américains qui entretiennent des relations commerciales extrêmement importantes avec la Grande-Bretagne et la France craignent que des bâtiments américains ou transportant des biens américains ou des citoyens américains soient attaqués. En fait, c'est l'apothéose d'une crise qui dure depuis plusieurs mois et pour lesquels on n'a pas réussi à trouver de solutions diplomatiques en ce printemps 1917. La deuxième raison, elle est plus à moyen terme, hein, c'est le fait qu'en ce printemps 1917, les Américains qui sont neutres ont aussi beaucoup prêté, par le biais des particuliers, des entreprises, d'argent aux belligérants, et en particulier aux Britanniques et aux Français. Et donc il y a une inquiétude dans les milieux d'affaires que si rien n'est fait, finalement, ses alliés n'arrivent pas à tenir face aux Allemands et donc, à terme, ne soient pas capables de rembourser leurs prêts. Donc, il y a aussi une forme de lobbying du monde des affaires pour dire on ne peut pas laisser la situation des alliés se dégrader. Il faut intervenir avant qu'il soit trop tard et que l'Allemagne finisse par gagner la guerre.
Alors, le Congrès vote donc l'entrée en guerre des États-Unis. Mais oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée américaine à cette époque-là n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, elle n'en a pas l'envergure, elle manque de soldats. Elle n'a connu que des conflits internes ou mineurs, en tout cas pas de cette envergure. Comment fait-elle pour pallier ses faiblesses?
En fait, c'est vrai, vous avez raison. Hein, la petite taille de l'armée américaine est quelque chose qui est une évidence sur la longue durée. Hein. Les Américains ont fait un choix politique d'avoir une armée de taille réduite en estimant que la défense du pays doit reposer essentiellement sur des volontaires. C'est un choix totalement différent du choix historique de la France en particulier. Et donc le grand défi de cette armée américaine lorsque la guerre est déclarée, c'est évidemment de porter ses effectifs au niveau des effectifs des belligérants pour pouvoir faire la différence sur le champ de bataille. Donc c'est une décision qui est difficile, hein, qui fait l'objet de nombreux débats, en particulier au Congrès des États-Unis, et qui finit par déboucher sur le vote d'une loi de conscription qui dit que tous les hommes, entre un certain âge et un certain âge, ont l'obligation de rejoindre l'armée. Au total, quand on regarde sur ce processus qui va courir entre le printemps 17 et l'année 1918, c'est finalement 4 millions d'hommes qui vont être appelés sous les drapeaux pour faire face aux besoins de cette guerre qui est en train de se dérouler en Europe. C'est considérable, hein, quand on considère que cette armée n'avait que quelques centaines de milliers d'hommes au tout début du conflit.
Alors, les États-Unis entrent en guerre en 1917. Quelle est la situation des troupes de l'Entente sur le terrain? 17, c'est une année assez compliquée, marquée par des mutineries, la chute de Nicolas II en Russie, etc. Quelle est la situation, le moral des troupes et la situation matérielle des troupes de l'Entente sur le terrain?
Sur le terrain, la situation est difficile pour l'Entente. Hein. Militairement, elle est difficile face aux troupes allemandes. Elle est en termes de moral des troupes. C'est la question des mutineries. Et puis c'est aussi l'influence des idées qui viennent de Moscou. Donc finalement, pour les responsables politiques français et britanniques, la décision américaine d'entrer en guerre, c'est une gigantesque bouffée d'oxygène, parce que c'est à la fois la perspective d'avoir des troupes qui vont être nombreuses, qui vont être fraîches, donc qui vont pouvoir renforcer significativement les alliés et permettre de faire jeu égal en termes de nombre d'hommes avec les Allemands. Mais c'est aussi une formidable bouffée d'oxygène pour le moral des troupes et de la population, parce que ça donne l'espoir de la victoire à brève échéance. Donc c'est vraiment sur ces deux niveaux qui expliquent finalement que les Français et les Britanniques soient ravis de l'entrée en guerre des Américains au printemps 1917.
L'entrée en guerre des États-Unis est-elle décisive finalement, ou est-ce que c'est plus complexe que ça?
Alors c'est plus complexe. De toute façon, il y a un élément de calendrier qu'il faut évidemment avoir bien à l'esprit. Nous célébrons actuellement le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis, mais l'effet de cette entrée en guerre va se faire sentir uniquement à partir de l'été 1918, et même on pourrait dire de l'automne 1918, quand les troupes américaines sont suffisamment nombreuses pour contrebalancer le poids démographique des troupes allemandes. Donc ça, c'est un premier élément extrêmement important. Le deuxième élément, c'est que il faut aussi prendre en compte l'impact de la contribution économique des États-Unis, qui est peut-être même plus déterminante que la contribution militaire. Les Américains fournissent des biens, des services aux alliés. Et puis surtout, à partir du moment où les États-Unis entrent en guerre, l'État américain peut prêter de l'argent aux Français, aux Britanniques, aux alliés. Et donc, c'est un argent dont ils ont absolument besoin pour pouvoir continuer à payer les factures, à passer les commandes. Donc, ces États sont aussi dans une situation de très grande fragilité financière au printemps 17. Et en entrant en guerre, les Américains vont leur permettre d'avoir accès à des financements états-uniens qui étaient impossibles en raison de la neutralité. Donc, à court terme, c'est plutôt la contribution financière qui donne de l'oxygène aux alliés. Et à moyen terme, c'est-à-dire l'année 1918, c'est la contribution militaire qui fait la différence.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.